Donc, l'affirmation hors de l'Église, point de salut, embarrasse certains catholiques. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on entend très souvent. Donc, les personnes qui sont un peu embarrassées par cette affirmation désireraient peut-être que l'Église garde le silence vis-à-vis de cette vérité plutôt de foi catholique plutôt gênante. Mais si nous, les catholiques, n'en parlons pas, le même ne pourrait pas être dit des non-catholiques. Parce que les témoins de Jéhovah et puis les autres, les protestants et les autres religions, ils ne manquent pas leur coup. Ils disent aux catholiques, mais vous dites que vous êtes la seule église, et puis hors de l'église, il n'y a pas de salut. Et puis, ils donnent une caricaturisation de cette vérité quand ils frappent à la porte des gens. Donc, si c'est une vérité enseignée par l'église, c'est important de comprendre, bien comprendre, le fondement théologique de cette vérité de foi catholique. Bien, il faut répondre à ces accusations par une argumentation claire et précise. Donc, si ce n'est pas clair et précis, n'hésitez pas à m'arrêter. D'abord, définissons nos termes. Donc, qu'est-ce que nous entendons par hors de l'Église, par le salut? On entend par là que pour être sauvé, c'est-à-dire pour parvenir au ciel, et donc éviter l'enfer, parce que si on a le ciel sans enfer, ça ne vaut pas la peine d'appartenir à une religion quelconque. Une religion sans un enfer, ce n'est pas une religion, parce qu'on n'est pas obligé d'y entrer. Donc, si pour parvenir au ciel et éviter l'enfer, il est nécessaire d'appartenir à l'Église fondée par Jésus-Christ. Je crois que c'est assez évident en soi. Donc, maintenant, il faut se demander où se trouve cette Église du Christ et quelles sont les conditions d'appartenance. Quel est le genre de nécessité dont on doit se lier ou appartenir, par lequel on doit appartenir à cette Église de Jésus-Christ. Trouvons cette vérité dans l'Écriture sainte, pour commencer avec les Saintes Écritures, parce que c'est ce qui est le plus accessible à vous et à moi. Et aussi, avant d'aborder l'Écriture sainte, on va examiner aussi les cinq premiers siècles de la tradition, donc les pères de l'Église aussi. On peut dire que cette doctrine, que l'appartenance à l'unique et véritable Église du Christ est nécessaire au salut, se trouve de deux façons dans l'Écriture sainte. Donc implicitement et explicitement. Et on va examiner les deux côtés. D'abord, ce qui est le moins évident, l'implicite. Donc, Jésus se présente comme étant l'unique sauveur dans les Écritures saintes, et il lui faut être uni pour, disons, par la foi vive. Donc, comme est-ce que nous unissons à Jésus, qui est le sauveur, c'est pas la foi vive. Or, Jésus et son Église, il parle de son corps aussi, Jésus parle également de son Église, Jésus et son Église ne font qu'un. C'est la même chose, l'Église et Jésus ne font qu'un. La nécessité donc d'être relié ou attaché à l'Église est impliquée par la nécessité d'être relié à Jésus-Christ par la foi. Donc si on doit être relié à Jésus par la foi, c'est le groupe ensemble qu'il faut être uni à la continuation du corps de Jésus dans le temps, c'est l'Église qui l'a fondé et instituée. L'Écriture sainte, la nécessité d'être lié à Jésus, l'unique sauveur par la foi. Saint Jean 6, 53. En vérité, si vous ne mangerez pas la chair du Fils de l'homme et ne boirez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Donc Jésus dit, si vous n'êtes pas attaché à moi en mangeant mon propre corps et en buvant mon propre sang, vous n'aurez point la vie en vous. C'est fort. Saint Jean 19, je suis la porte. Si vous entrerez par moi, vous vous sauverez. C'est assez catégorique. Imaginez quelqu'un qui se promène, je suis la porte, puis vous entrez par moi. Saint Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au clair sauf par moi. Il faut passer par Jésus pour aller à Dieu, pour aller au Père, pour aller au ciel. Celui qui vous écoute, m'écoute, celui qui vous méprise, me méprise. Donc, quelle est l'interprétation de ce passage par, disons, le magistère de l'Église catholique? Jésus parle aux apôtres, donc il vient de souffler sur eux et leur donner le pouvoir d'absoudre les péchés. Il les envoie dans le monde entier et dit, ceux qui vous écoutent, m'écoutent, ceux qui, celui qui vous méprise, me méprise. Donc la voix des ministres envoyés par Jésus, les ministres de son Église, ont la même autorité que Jésus. Ensuite, explicitement, donc on a disons, sorti les passages de l'Écriture sainte qui sont un peu indirects, mais maintenant ça va être beaucoup plus direct, beaucoup plus évident. Saint Matthieu 18, 17. Et si quelqu'un ne vous écoute pas, dites-le à l'Église. Mais s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour vous comme un étranger et un publicain. Donc voilà, Jésus utilise le mot Église. Il dit qu'il faut écouter l'Église. Donc c'est l'autorité pour enseigner tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut croire pour être sauvé. Et si quelqu'un n'écoute pas cet enseignement qui vient de Jésus et qui est enseigné par les apôtres, les ministres de l'Église, qu'il soit comme un étranger et un publicain. Saint Marc 16, il faut bien retenir ce passage-ci parce que ça va être un peu l'axe, le fondement de la présentation théologique plus tard. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc Jésus parle d'être sauvé, donc il parle du ciel. Et ensuite, il parle de condamner, donc d'aller en enfer. Et il montre, il donne les moyens, il donne la fin, c'est-à-dire le but, où il faut aller et où il faut éviter. Et il dit, je vous donne les moyens pour y aller. Et ces moyens, ce sont le baptême et la foi. Puis on va justement interpréter ce passage selon l'enseignement pérennien de l'Église catholique. Donc de la bouche du Sauveur lui-même, on voit donc la nécessité d'appartenir à son Église. Maintenant, dans les actes, donc on a vu les quatre évangiles, on va passer dans les actes des apôtres assez rapidement. Donc actes 7, 11, 12. Il y a le salut en personne d'autre que Jésus, entre guillemets, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Donc en dehors du nom de Jésus et donc de son Église, il n'y a pas de salut. Pas de salut si ce n'est dans le nom de Jésus, c'est-à-dire la connaissance de Jésus que nous donne l'Église. Comment connaissons-nous le nom de Jésus, sinon à travers l'Église? Dans son premier épître, Saint-Pierre a institué une comparaison très importante, destinée à devenir classique dans la tradition chrétienne. Et tous les cœurs de l'Église vont relever cette comparaison entre l'Église et l'Arche de Noé. Voilà, les Écritures, c'est un passage très intéressant. Ça m'a, en l'étudiant, j'ai découvert des choses que je ne voyais pas avant. Je vais partager ces choses avec vous. Le premier livre de Saint-Pierre, 3, versets 20 à 21. Et aussi, venant, il prêchait aux âmes en prison. Donc, il parle de Jésus. Il prêchait aux âmes en prison. Qui autrefois avait été incrédule. Lorsqu'au temps de Noé, il s'attendait à la patience de Dieu. Pendant qu'était préparée l'arche, dans laquelle peu de personnes, savoir 8 seulement, furent sauvées à travers l'eau. Figure à laquelle correspond le baptême qui vous sauve maintenant. Bien, donc on peut pour mettre ce passage dans son contexte. Saint-Pierre parle de Jésus après sa résurrection, qui descendent aux enfers. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? C'est un article du Credo, donc on sort des Saintes Écritures. Mais pourquoi est-ce que j'ai la certitude avec l'Église qui parle des enfers, pas l'enfer, ou le ciel? Il ne peut pas parler du ciel, parce que le ciel, ce n'est pas une prison. Il ne peut pas parler des enfers, disons de l'enfer, parce que Jésus n'a pas prêché aux damnés. Il n'a pas d'utilité. Et donc, il y a... Oui? Est-ce qu'il y a une question? Oh, excuse-moi. Encore une. Excusez-moi. Voilà. Et donc, il parle d'un troisième lieu, forcément. Si ce n'est pas le ciel, parce que le ciel n'est pas une prison, et si ce n'est pas l'enfer, parce que Jésus ne prêche pas aux damnés, ça n'a pas d'utilité, ça s'appelle l'âme du juste. C'est la tradition antique juive, donc des Hébreux, la tradition orale, que les justes de l'Ancien Testament, par exemple Job, qui était un païen, est allé dans le lieu qu'on appelait le Sheol, et ce qui était distinct de la guerre et de l'enfer, le Sheol, où restaient, où attendaient justement les âmes qui allaient au ciel, qui étaient mortes en état de grâce. Donc, on parle de l'âme des justes. Donc, Saint-Pierre dit que ceux qui étaient dans l'arche figurent le baptême. Donc, il dit qu'il y avait 8 personnes seulement qui étaient sauvées, c'est-à-dire physiquement, au temps du déluge. C'est un symbolisme assez fort. Et en dehors de ces 8 personnes, tout le monde a péri. Donc, en dehors de l'arche, tout le monde s'est noyé. Donc, voilà la figure, il fait le rapport entre ce noyage et puis le salut qu'il nous donne le baptême. Mais moi, je voyais un peu plus loin que ça, je me suis dit, donc il y a les personnes qui sont sauvées à l'intérieur de l'arche, ce sont ceux qui sont baptisés, c'est-à-dire ceux qui sont à l'intérieur de l'église. On va voir ça tout à l'heure avec les pères. Mais Saint-Pierre parle de ceux qui sont en prison et Jésus va prêcher et les réconforter, il va les parler. Donc ils se sentent qu'ils sont sauvés, ils attendent le Messie. Donc comment ça se fait que, disons, ces 8 personnes qui furent sauvées étaient sauvées par le baptême et disent qu'ils étaient les seuls à être sauvés, mais il y a d'autres personnes encore qui n'ont pas été baptisées qui sont sauvées. Et on va voir ça tout à l'heure. C'est peut-être le baptême de désir, donc on va examiner ça plus tard. Donc, comme les 8 personnes dans l'arche étaient les seuls survivants du déluge, de même, seulement ceux qui entrent l'église par le baptême auront le salut éternel. L'Église est l'arche du salut où l'on rentre par la foi et le baptême. Donc cette image est classique chez les pères qui font l'axiome hors de l'Église, pas de salut. Saint Paul, maintenant parmi de très nombreux textes, les plus frappants, Éphésiens 1, 5, « Et tout est soumis sous les pieds, et lui-même est la tête de toute l'Église, donc il parle de Jésus, qui est son corps et sa plénitude, qui accomplit tout en tout. » Éphésiens 5, 23, car le Christ est la tête de son Église, lui-même le sauveur de son corps. Donc, il parle d'une Église fondée par Jésus, d'un corps. Donc, plus tard, on parlera d'un corps mystique ou un corps communion des saints, l'Église militante. L'affirmation, maintenant, hors de l'Église, pas de salut, est un dogme de foi catholique. Donc, maintenant, on saute dans le. On passe des siècles, et puis l'Église nous dit que. Oui. Où pour la première fois on voit le mot dogme, ou on prononce le mot dogme.
Dans le dogme,
disons, qu'est-ce qu'est un dogme? C'est une vérité révélée par Dieu qui a été transmise à travers les siècles dans le dépôt. Donc, quand on dit que telle ou telle chose est un dogme, ce n'est pas une nouvelle vérité. Et c'est tout simplement dire que c'est une vérité à croire sous peine de damnation, disons. Ceux qui ne croient pas ceci vont en enfer. Et puis il y a toujours un moment dans l'Église où, malgré le fait que c'est cru universellement, il y a la discussion sur le point. L'Immaculée Conception, par exemple, des théologiens du Moyen-Âge, c'était un point libre. Saint Thomas était contre, pour des raisons, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il n'était pas contre le dogme lui-même, mais plutôt contre certains faits biologiques plutôt. Et Saint. Saint Bernard était contre, Saint Thomas était pour, il y avait toute une dispute théologique. Ici, le dogme a été, pour la première fois dans le mot dogme, si je me trompe, sous Pie IX. Mais avant, c'est clair, on n'utilise pas le mot dogme, mais c'est un canon. C'est-à-dire, on dit, si vous ne croyez pas, hors de l'Église, point de salut, un anathémacite, c'est-à-dire vous êtes hors de l'Église. Et cela à partir de Pélage II au VIe siècle.
Mais les dogmes de la foi sont quand même assez restreints. Il doit y avoir une date précise pour ce que ça veut dire.
Pas nécessairement. Parce que, comme a dit le cardinal Ratzinger il n'y a pas longtemps, il disait que ce n'est pas nécessaire pour l'Église de prononcer sur un dogme, c'est-à-dire de dire c'est un dogme pour que ce soit un dogme de foi révélée. Vous savez qu'il y a, disons, un dépôt révélé de foi qui est clos avec le mort de Saint Jean. Et ce dépôt est transmis fidèlement. Et dans ce dépôt, il y a des vérités révélées par Dieu qui sont à croire sous peine de damnation. Et cela dès le début. Donc ce n'est pas parce que l'Église en 1900. 54 a dit que Marie était assumée au ciel, corps et âme, que ce n'était pas un dogme ou une vérité révélée par Dieu qu'il fallait croire avant. C'est une, disons, c'est une doctrine, celui que je vous donne, c'est une doctrine infaillible, reçue universellement par l'Église, crue par tout le monde, enseignée par tous les papes et tous les conciles. Mais l'Église a voulu solennéliser ce dogme en utilisant le mot dogme tardivement. Mais la vérité a toujours existé. Mais dans la présentation, je montrerai clairement l'évolution de ce dogme. Parce que, sous un certain rapport, il y a l'évolution du dogme. Pas que la vérité tombe du ciel en 1945 ou en 1868. C'est pas ça. C'est qu'il y a un développement homogène, une explicitation d'une vérité implicitement ou explicitement trouvée dans le dépôt révélé de la foi. Et il y a bien des vérités, par exemple la Sainte Trinité. Quand est-ce que l'Église a proclamé le dogme de la Sainte Trinité? Jamais. Jamais. Ah, mais c'est un dogme de vérité, quand même. Ils avaient toujours cru. De même avec hors de l'Église, point de salut. Donc ce n'est pas nécessaire que le magistère dise ceci solennellement, on affirme solennellement que ceci est un dogme. Non, ce n'est pas nécessaire pour que ce soit un dogme. Bien, donc l'affirmation de l'Église par le salut est un dogme de foi catholique, c'est-à-dire une vérité enseignée depuis toujours par le magistère de l'Église comme étant à croire. D'abord, les pères de l'Église dans la tradition des cinq premiers siècles. Saint Ignace d'Antioche, en l'an 108, donc il était mort en l'an 108, insiste sur la nécessité d'être unis aux évêques évidemment supposés être fidèles au dépôt sacré de la foi, et exclut du salut tous ceux qui s'en séparent d'elle. Donc, à Flavianus, deuxième livre, verset 2, il est donc nécessaire, il utilise le mot nécessaire, comme vous le faites, de rien faire sans l'évêque, mais de vous soumettre aussi au prêtre, au presbytérium. Ensuite, dans le même livre, celui qui est à l'intérieur du sanctuaire, c'est-à-dire l'Église, c'est moi qui ajoute, c'est clair, qui parle de l'Église, celui qui est à l'intérieur du sanctuaire est pur. Mais celui qui est en dehors du sanctuaire n'est pas pur. C'est-à-dire que celui qui agit en dehors du sanctuaire n'est pas pur. C'est-à-dire que celui qui agit en dehors de l'évêque, du presbytérium et des diacres, celui-là n'est pas pur en conscience. Donc, c'est très clair, l'hiérarchie de l'Église. Donc cette union à une institution juridique par les liens, liens visibles. Au Philadelphia, car tous ceux qui sont à Dieu et à Jésus-Christ, ceux-là sont avec l'évêque. Et tous ceux qui se repentiront et viendront à l'unité de l'Église, ceux-là aussi seront à Dieu pour qu'ils soient vivants selon Jésus-Christ. Maintenant, pour passer en quelques années, Saint-Irénée, en l'an 190, dans son traité contre les hérétiques. Ceux ne participant pas à l'Esprit, et qui n'accourent pas à l'Église, mais qui, par leur doctrine mauvaise et leurs actions détestables, s'excluent eux-mêmes de la vie. Car là où est l'Église, là est l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église de toute sa grâce. Et l'Esprit, c'est la vérité. Saint Cyprien, en l'an 258, est un martyr d'Afrique. C'est là où apparaît pour la première fois, vous avez demandé tout à l'heure à quel moment est-ce que ce dogme a été apparu. Bon, c'est lui, Saint Cyprien, en 258, qui a, disons, utilisé ce célèbre formule pour la première fois, « Salus extra ecclesiam non est ». Donc, en dehors de l'Église, pas de salut, pardon, tu l'aimes. Epistola, donc, l'Épître 73, à Iulianum. Quiconque se sépare de l'Église catholique s'unit à un adultère et se sépare des promesses de l'Église ne parviendra pas au fruit du Christ, celui qui abandonne l'Église du Christ. Donc il dit qu'on ne peut pas avoir des fruits, c'est-à-dire le salut, sans être attaché à l'arbre, c'est-à-dire l'Église catholique. Enfin, le salut. Donc c'est dans l'Épître 73 à Iulianum sur l'unité de l'Église catholique. Encore, personne ne peut avoir Dieu pour son Père qui n'a pas l'Église pour sa mère. Si quelqu'un ne garde pas l'unité de l'Église, il ne garde ni la vie, ni le salut. Origène en 250, il est mort en 250 dans la persécution de Dès, Si d'autres peuples veulent se sauver, qu'ils viennent à cette maison. En dehors de cette maison, c'est-à-dire en dehors de l'Église, personne ne se sauvera. Si jamais quelqu'un s'en sort, il est lui-même responsable de sa mort. Lactance au 5e siècle, donc lui est mort sous la persécution de Constantin, donc du Christ-Ban, qui était son persécuteur, au 5e siècle. Seule donc l'Église catholique a le vrai culte. Elle est la source de vérité, la maison de la foi, le temple de Dieu, afin que celui qui ne rentrera pas, ou celui qui sortira d'elle, celui-là est coupé de l'espoir de la vie et du salut. C'est assez clair, c'est très. C'est au 5e siècle, 4e siècle. Saint Augustin, maintenant. En 630, il est mort en 630, quand les Ariens étaient aux portes de son évêché, Lipon, en Afrique du Nord. Donc, depuis 341, c'est simple. Quiconque donc se séparera de l'Église catholique n'aura pas la vie. Encore. L'Église catholique est le seul corps du Christ. En dehors de ce corps, on est nullement vivifié par l'Esprit Saint. Non pas l'Esprit Saint, ceux qui sont en dehors de l'Église. Donc maintenant, son serment à Césarianus. Le salut de l'homme n'est pas possible que dans l'Église catholique. Nullement, sauf dans l'Église catholique, peut en trouver le salut. Quand on a vu les pères de l'Église jusqu'au 7e siècle, c'est assez clair, même primitivement, c'est très clair. La formule hors de l'Église, point de salut, est quelque chose qui est répété depuis le 2e siècle, sinon avant. Ensuite, est-ce qu'il y a une question pour... Donc, quant au magistère pontifical, maintenant, on a vu les Saintes Écritures, on va retourner au passage de Marc 16, après, pour justement faire le développement de la théologie positive, spéculative. Mais entre-temps, je vais, sans m'attarder, tout simplement passer à travers le magistère pontifical, donc à travers les âges. Donc la liste des papes, des conciles, qui ont enseigné en dehors de l'Église romaine, personne ne peut être sauvé. Et cette liste est assez longue. Pélage II, en 585, a enseigné clairement. Le 16e concile de Tolède, en Espagne, en 693. Innocent III, en 1208. Le 4e concile de Latran, en 1215. Ou même Saint-Dame de Boniface VIII, en 1302. Clément VI, en 1351. Eugène IV, en 1442, le Concile de Florence, lui, il va plus loin encore. Il dit pas de salut en dehors de l'obéissance au pontife romain. Donc, en dehors de l'obéissance au pape. Parce qu'il identifie la tête, le Christ, comme étant tête, avec la tête visible de l'Église, c'est-à-dire le pape. Donc, il va plus loin encore. C'est évident que c'est compris si on dit pas de salut en dehors de l'Église catholique. Bien sûr, c'est dans l'obéissance au pape. 9, l'encyclique Quanta Conficiamo Merore en 1863. Mais c'est aussi un dogme catholique, donc voilà le mot, c'est aussi un dogme catholique des plus connus que personne ne peut être sauvé en dehors de l'Église catholique. Mais en 13, en 1896, on enseigne la même chose dans un encyclique. Pie XII en 1950, donc dans Humani Generis. Et le Saint-Office en 1949 contre Fini. Donc Fini était un prêtre jésuite qui vivait dans l'archidiocèse de Boston. Et lui était un rigoriste. Donc il enseignait que, il rendait très étroit cette doctrine de foi catholique en dehors de l'Église catholique, pas de salut. Donc il excluait, ce qu'on va voir tout à l'heure, ceux qui ont le désir implicite d'appartenir à l'Église catholique. Et puis, il disait, peut-être c'est une parodie, j'espère pas, de sa pensée, mais sauf si l'eau coule sur le front d'un enfant ou d'un adulte, il ne peut pas être sauvé du tout. Et c'est une hérésie condamnée par le Saint-Office. Donc, il y a deux extrêmes. Il y a l'indifférentisme religieux, donc tout le monde rentre dans l'Église, peu importe. Et l'autre extrême, c'est le rigorisme, où on exclut de l'Église ceux qui par aucune faute de leur part, qui sont dans l'ignorance invincible, il les exclut automatiquement du salut. Donc Dieu damnera des âmes, de l'indéterminité. Donc c'est un peu, on rejoint un peu le calvinisme, le déterminisme absolu, le but du déterminité. Donc les deux sont des extrêmes à hériter, selon le magistère de l'Église. Donc le Saint-Office, quand on finit, et ses partisans existent encore aux États-Unis, puis ils publient des livres, justement, pour essayer d'exclure de l'Église le plus possible. En tout cas, c'est assez raide comme position, j'ai un petit coup. Donc le Saint-Office dit qu'on peut finir. Or, parmi les choses que l'Église a toujours prêchées, et ne cessera jamais de prêcher, spécialement en tout cas, se trouve aussi cette déclaration infaillible, voilà, déclaration infaillible, qui nous enseigne que hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Ce dogme, cependant. Donc vous voyez qu'à aucun moment est-ce qu'un pape a dit c'est un dogme. Mais parce que c'est cru par tout le monde, depuis toujours, partout, c'est un dogme, ce bonne soi. Donc les papes, tout simplement, répètent leurs prédécesseurs, leur enseignement infaillible qui vient de Jésus-Christ et des apôtres. Et puis, cet enseignement est infaillible, c'est-à-dire ne peut pas errer. Ça ne veut pas dire tout sur le sujet. C'est pas ça l'infaillibilité. C'est une infaillibilité négative. Donc, il n'y a pas d'erreur là-dedans. Il faut bien le comprendre aussi selon la pensée de l'Église. C'est comme beaucoup de passages dans les Écritures, par exemple. Et Marie et ses fils, et Marie était là avec ses enfants. Les protestants disent tout de suite, Marie a eu plusieurs enfants, pas seulement Jésus. L'Église a dit non, pour l'interpréter selon les Juifs, un fils ou une fille veut dire aussi les neveux. Voilà. Donc il faut là, c'est pas seulement prendre la lettre, mais il faut l'interpréter selon l'esprit de l'Église. Une vérité ne peut être enseignée comme dogme de foi que si elle est déjà contenue dans la révélation divine. Oui,
une petite question. Vous n'avez pas passé le Concile Vatican II qui est le plus dernier concile qu'on a vu. Quelle est sa position?
Bon, elle ne peut pas avoir une autre position que celle de l'Église. Donc elle a la position hors de l'Église, point de salut, et le même enseignement que moi, je vous donne maintenant. On peut en discuter ça, de ça à la fin, parce que justement, il y a un certain élargissement. Oui, c'est ça, justement. Mais disons, on va parler, si vous demandez la question à la fin, après le développement, c'est très intéressant comme question, parce que justement, je préfère faire le cheminement, puis après, le point, intéressant, c'est que le Concile du Vatican II parle des éléments de salut qui se trouvent en dehors de l'Église visible. Mais elle ne dit pas que le salut se trouve en dehors de l'Église. Elle dit qu'il y a des vérités qui sont catholiques, qui peuvent sauver dans notre religion. Mais de là à dire qu'on ne se sauve pas le protestantisme, par le bouddhisme, par l'orthodoxie, c'est mal connaître, ou moins mal comprendre l'enseignement de l'Église. Parce qu'il faut bien comprendre que l'Église ne fait que expliciter l'enseignement qui était toujours reçu. Donc ça ne peut pas faire une bonne face. Donc si c'est ça ce que vous voulez impliquer par votre intervention, je dirais non. C'est dans la même ligne. Mais il y a une certaine tournure qui est nouvelle, c'est vrai. Mais ça se trouve du côté de la dignité de l'homme. On va parler, si vous voulez bien, peut-être à la fin. Mais c'est un optique un peu différent que la mienne. Donc nous avons vu que une dogme, c'est quelque chose qui est contenu depuis toujours, disons, dans le dépôt de la révélation divine, qui est un dogme de foi encore, et clos avec la mort de Saint Jean. Donc il y a un iota qui est ajouté au dépôt révélé, substantiellement, positivement, après la mort de Saint Jean. Il n'y a qu'une transmission, voilà ce qu'a défini infailliblement le premier concile du Vatican. Il n'a pas été donné à Pierre de changer le dépôt révélé, mais de fidèlement transmettre le dépôt. Voilà. Donc, le pouvoir du pape, c'est tout simplement de transmettre comme un facteur, transmettre une lettre, tout en l'explicitant, bien sûr. C'est pas, disons, une lettre morte, au contraire. Nous avons vu qu'effectivement, cette vérité est enseignée à la fois par l'Écriture sainte, la tradition des cinq premiers siècles par les papes et les conciles. Donc, hors de l'Église, pas de salut, et donc un dogme de foi catholique et divine, car c'est une vérité révélée par Dieu. On peut le trouver à tout instant depuis le début de l'Église. Bien, donc maintenant abordons la théologie positive. Et on va justement se greffer, on va faire ce que j'ai dit tout à l'heure, on va prendre les Saintes Écritures et on va tout simplement expliciter ce qui est déjà contenu implicitement. Donc, quelle est la signification exacte du dogme qu'on retrouve en Marx, disons, du dogme qu'on vient de voir de l'Église, point de salut. Car en Marc 16, notre Seigneur Jésus-Christ enseigne qu'il est nécessaire d'appartenir à l'Église. Donc c'est le passage célèbre. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc avant de nous lancer dans ce passage, j'aimerais bien faire quelques petites distinctions parce qu'on parle d'une nécessité. Jésus nous enseigne que c'est nécessaire d'appartenir à l'Église, mais définissons nos termes. Qu'est-ce que nous entendons par nécessité et qu'est-ce que cela, de quelle appartenance s'agit-il? Donc, quelle nécessité et quelle appartenance? Notre Seigneur, faire les petites distinctions avant. Donc, il y a des nécessités, il y a différentes sortes de nécessités. Je vais révéler trois avec des exemples très faciles, vous allez voir tout de suite la différence. Il y a des nécessités de droit ou de précepte qui admettent des exceptions. Ce sont des mots un peu compliqués, mais si vous voulez conduire, par exemple, c'est le but recherché, c'est ce que vous voulez faire. Donc, il vous faut un permis de conduire, voilà le moyen, émis par l'autorité compétente. Mais ce n'est pas une nécessité absolue. Il y a deux semaines, on a entendu à la radio qu'il y avait un monsieur en France qui, pendant 60 ans, conduisait sans permis. Il n'a pas fait une infraction, il a arrêté tout simplement la barrière, systématiquement, puis le monsieur disait, j'ai pas le permis, j'en ai pas eu, il en faut un permis. Et puis ils ont dit, oui monsieur, il faut un permis, il faut que vous alliez en prison aussi, monsieur. Donc ils ont donné une forte demande, et puis je crois qu'il peut-être qu'il a fait un peu de temps en prison. Bien, donc c'est une nécessité de droit. Donc c'est pas une nécessité absolue, mais c'est une nécessité qui admet des exceptions. Ensuite, il y a des nécessités de moyens très utiles. Donc, la perfection morale de l'adulte, donc être vertueux, se tenir bien, bon comportement, ça s'appelle une bonne éducation. Donc, c'est la fin recherchée, c'est le but recherché. Donc, le moyen, c'est, par exemple, donc la perfection morale, c'est le but recherché, mais le moyen pour atteindre ce but, c'est une bonne éducation dans l'enfance. Mais ce n'est pas absolument requis. Quelqu'un, disons, on peut s'en passer outre, mais pratiquement, il s'impose comme nécessaire. Mais pas absolument. Ce n'est pas comme la nourriture, par exemple. Sans se nourrir, on crève, on meurt. Ce n'est pas la même chose. Sans une bonne éducation, on peut quand même parvenir à une certaine perfection morale. Ensuite, il y a la nécessité de moyens absolument et strictement nécessaires. Donc, sans lequel on ne peut pas atteindre le but. Donc, pour rester en vie, voilà le but à chercher, il faut se nourrir, voilà le moyen. Ceci est absolument nécessaire pour les hommes, pas pour les anges, mais pour les hommes, et n'admet pas d'exception. Donc, voilà trois nécessités. Il y a la nécessité de droit, mais qui admet des exceptions. C'est l'exemple de conduire. Il y a les nécessités de moyens très utiles, mais pas strictement nécessaire. Donc la perfection morale, c'est le but, et la bonne éducation est le moyen, pas strictement nécessaire, mais très utile quand même. Ensuite, il y a la nécessité de moyens absolument et strictement nécessaires. Et pour garder la vie, pour entretenir la vie, il faut se nourrir. Donc on ne peut pas s'en passer de se nourrir. Voilà trois nécessités. Pourquoi est-ce que je parle de ces nécessités différentes? Parce que justement, dans ce passage de notre Seigneur, il dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Il s'agit dans le premier énoncé et dans le deuxième énoncé de deux nécessités et donc de deux appartenances différentes. Donc, c'est pourquoi j'ai fait la petite explication avec vous. La nécessité de précepte, donc la nécessité de droit, appelé le permis de conduire, requiert une appartenance à l'Église qu'on appelle dans la théologie in pre, donc de fait, visiblement, avoir la foi, de professer, assister au culte de l'Église publique, pas visible mais publique, être soumis aux autorités qui font leur travail. Voilà. Donc ces trois signes extérieurs qui font que telle ou telle personne est reconnue comme étant un membre de l'Église de fait. Mais est-ce que c'est la seule appartenance possible ou imaginable pour quelqu'un afin qu'ils appartiennent à l'Église catholique? La nécessité de moyens strictement nécessaires exige une appartenance à l'Église qu'on appelle une voto ou par désir. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que se nourrir, c'est absolument nécessaire pour avoir la vie. On ne peut pas s'en passer de la nourriture. Et ce genre d'appartenance à l'Église, on va faire la comparaison justement avec l'Église et le passage du Marc 16:16, et in voto ou par désir. Donc c'est invisible. Il y a une appartenance visible, publique à l'Église, il y a une appartenance invisible à l'Église, et c'est contenu dans les paroles mêmes de Jésus-Christ. Donc c'est pas quelque chose que moi j'ai inventé, c'est pas quelque chose que les papes ont inventé, ni les pères. C'est dans l'Écriture sainte, qui est quand même accessible à la vaste majorité et acceptée. L'interprétation, là, ça pose toujours des difficultés, mais ça, il suffit de le lire avec les yeux ouverts. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que ce qui est clair pour soi n'est pas nécessairement clair pour autrui. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir donné à ses apôtres et à leurs successeurs, donc à l'hiérarchie dans son Église, on a vu tout à l'heure, les évêques, les prêtres, donc les premiers papes et les premiers pères de l'Église ont parlé justement de cette hiérarchie dès le début du deuxième siècle. L'ordre d'aller donc, dans notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir donné donc, l'ordre de ses apôtres d'aller dans le monde entier, donner l'ordre de prêcher l'évangile partout. Et il déclara solennellement, notre Seigneur, celui qui croira, c'est-à-dire à votre prédication, ce n'est pas à la sienne, parce qu'il adresse les apôtres, et c'est quand même une auditoire assez restreinte. Donc il s'adresse aux générations futures, il s'adresse à vous. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc croira, parce que ça veut dire la foi, pour la foi, croire ce qui est prêché. Ensuite, se faire baptiser, donc se faire couler l'eau sur la tête avec les paroles et l'intention de l'Église. Ensuite, il ne termine pas, il aurait très bien pu s'arrêter là, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'a pas arrêté, il a continué. Et c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il a continué? Donc le deuxième énoncé, celui qui ne croira pas, donc encore, à votre prédication, sous-entendu, sera condamné. Vous remarquez tout de suite la différence entre les deux énoncés. Quelle est la différence? C'est le baptême. Dans le premier énoncé, on parle du baptême. Dans le deuxième énoncé, on ne parle plus du baptême. Pendant la première partie de Saint Marc 16:16, le précepte divin est clair. Pour que l'homme soit sauvé, Dieu lui demande la foi et le baptême, c'est-à-dire d'appartenir effectivement, visiblement, à l'Église du Christ. Donc, de quel précepte, de quelle nécessité s'agit-il selon vous? Est-ce qu'il s'agit d'une nécessité de droit ou de précepte, ou est-ce qu'il s'agit d'une nécessité de moyens absolument nécessaires? Donc je laisse la question chez vous. Dans la seconde partie, le baptême n'est pas mentionné. C'est absent. Pourquoi? Jésus n'a pas dit que quiconque ne serait baptisé serait condamné. C'est pas ce qu'il dit. La condamnation est réservée à celui qui sciemment refuse de croire à la prédication des apôtres ou à l'enseignement infaillible de l'Église, qui est l'écho, tout simplement, ni plus ni moins, l'écho de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et des apôtres. Pour être sauvé, il faut être donc en état de grâce, selon le deuxième énoncé, parce qu'il ne s'agit pas d'un baptême, il ne s'agit pas du sacrement, il s'agit des fruits du sacrement, donc il s'agit de l'état de grâce, de la charité, la vie même de Dieu dans le cœur de la personne. c'est-à-dire, donc état de grâce, c'est-à-dire avoir reçu les fruits du baptême, mais pas nécessairement le sacrement ou le caractère du baptême. Donc, les théologiens disent, est-ce que Marie, par exemple, a été baptisée? Bon, la plupart des théologiens scolastiques disent que Marie était baptisée pas parce qu'elle avait besoin, elle n'avait pas eu le péché originel. Priez pour nous, vous rappelez sur la médaille miraculeuse, c'est écrit
Marie,
priez pour nous. Voilà. Donc elle n'avait pas la tâche originelle, selon la théologie catholique, c'est un don de foi. Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait été baptisée? Alors, tout simplement pour avoir le caractère. C'est-à-dire, c'est comme le caractère, c'est comme un seau qui est mis dans S-C-E-A-U, dans la cire. Donc un seau, un marc, parce que c'est la perfection de la foi, charité et l'espérance. Ce n'est pas nécessaire pour le salut, mais c'est quand même une perfection qui leur est manquée, selon l'argumentation des théologiens scolastiques, simplement. Elle aurait manqué cette perfection et ça aurait amoindri sa gloire dans le ciel. Donc, pour qu'elle soit comme tous les baptisés, elle aurait la même dignité, elle aurait été baptisée. Mais ce n'est pas dans les Écritures, c'est tout simplement une spéculation des théologiens fondée sur l'Écriture sainte et l'enseignement de l'Église à travers le ciel. Autrement dit, si quelqu'un ne satisfait pas au précepte qui lui enjoint d'entrer effectivement dans son église, donc c'est le précepte de droit qui admet les exceptions, c'est comme le conduit permis, vous rappelez, vous pouvez conduire sans permis, vous pouvez, c'est une possibilité. Ce n'est pas absolument nécessaire que quelqu'un ait son permis dans sa poche. Si vous l'oubliez, vous pouvez quand même conduire. Et quand le policier arrive, vous allez dire, bon, excusez-moi, puis vous allez pas vous flanquer une amende. Autrement dit, si quelqu'un ne satisfait pas au précepte de droit qui lui enjoint d'entrer effectivement dans son église en se faisant baptiser, il n'est pas automatiquement damné, c'est le gros bon sens. Quelqu'un n'est pas nécessairement damné tout de suite s'il n'est pas baptisé et si ce n'est pas sa faute. Donc la nécessité du précepte qui admet les exceptions, on va examiner le premier énoncé, il sera damné selon maintenant la théologie spéculative de l'Église, donc c'est la doctrine commune de l'Église. On ne parle plus de dogme, mais on parle de doctrine communément reçue dans l'Église. Il sera damné s'il n'observe pas ce précepte par sa faute. Par sa faute. Donc quelqu'un sait qu'il faut se faire peut-être baptisé, il sait que l'Église catholique romaine, donc il parle dans sa conscience, il sait que l'Église catholique est le seul et unique Église du Christ et qu'il faut y adhérer. Mais il se tient à l'écart parce qu'il ne veut pas pour X ou X raisons. Bon. Et c'est Dieu seul qui dit que telle ou telle personne est coupable. Ce n'est pas à moi de le faire. Il y a trois surprises au ciel. La première surprise, c'est de s'y retrouver. La deuxième surprise, c'est de voir en enfer ceux qu'on a mis au ciel et de voir au ciel ceux qu'on a mis en enfer. Voilà. Donc Dieu seul scrute les cœurs, Dieu seul juge. Mais on peut dire que si c'est par sa faute, et si c'est objectif, donc s'il est coupable, il sera damné. Par exemple, quelqu'un qui soupçonne que l'Église du Christ est l'Église catholique, mais qui n'agissait pas pour éclaircir sa doute. C'est dans le catéchisme de Saint-Pédis que tel ou tel chrétien, donc un anglican par exemple, qui doutera que son Église soit la véritable Église du Christ et qui ne poursuivra pas ce doute pour s'éclaircir, ce serait une culpabilité, disons, invincible, ou il serait coupable de cela. Encore, c'est Dieu qui juge, ce n'est pas nous. Ce qui nous apparaît comme étant coupable, ce n'est pas nécessairement le cas. Mais Saint-Pie X l'enseigne dans le catéchisme, dans son catéchisme. Ensuite, la nécessité des moyens. Donc, dans le deuxième énoncé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est la nécessité des moyens. Qui n'admet aucune exception. Donc, l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est se nourrir pour se garder en vie. Si sa désobéissance n'est pas coupable, en raison, par exemple, d'une ignorance invincible, donc, il est ignorant, mais ce n'est pas par sa faute. Le curé n'est pas chez lui pour prendre le café, et puis, bon, ignorer l'Église du Christ, la croix et tout ça, c'est le petit Africain ou le Chinois, il n'a jamais entendu parler de ça. Il peut être sauvé. n'est pas garanti d'être sauvé. Il peut être sauvé. Il y a des conditions. Donc, à quelles conditions est-ce que ce deuxième catégorie d'hommes, qui sont ni réfractaires conscients, donc ils se trouvent ni dans le cadre de celui qui est anglican ou protestant ou je ne sais pas comme autre, qui doute. Ça ne se peut pas qu'un roi puisse être la tête de l'Église. Jésus ne s'est pas adressé à un roi, il s'est adressé à ses apôtres qu'il a ordonné évêques. Il a donné le pouvoir aux évêques, il n'a pas donné au roi. Donc il y a un méchant problème. Donc s'il doute de la divine institution de son Église, entre guillemets, et puis il ne poursuit pas, s'il ne s'éclaircit pas dans sa doute, selon Saint Pie X, par le baptême et par une profession explicite de la foi catholique, ou est-ce qu'on peut appartenir à l'Église par désir? Et l'Église répond oui. Celui qui croira et sera baptisé. Donc voilà le premier énoncé encore, on revient toujours avec l'Écriture sainte. Les paroles de Jésus contient le dogme en germe. Donc le dogme, c'est un peu comme une semence qui germe et qui pousse et qui devient un grand arbre. Mais c'est toujours le même arbre. C'est Cardinal Newman dans son évolution du dogme qui décrit justement ce développement à travers les siècles, surtout à la lumière des pères de l'Église. Donc, il utilise justement ce symbole, cette figure pour décrire le genre de développement ou l'évolution qu'on puisse admettre pour le dogme. Les paroles de Jésus donc contiennent le dogme en germe. Le premier énoncé, donc celui qui croira sera baptisé, enseigne que pour obtenir le salut, l'appartenance externe et visible au corps de l'Église est nécessaire d'une nécessité de précepte, donc permis de conduire encore, qui admet les exceptions. En vertu de l'ordre divin donné par notre Seigneur Jésus-Christ, ce précepte admet des exceptions. Pourquoi est-ce qu'on puisse admettre des exceptions? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement parce que Jésus a continué sa pensée. Il a explicité ce qu'il voulait dire par « celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». Il ne s'est pas arrêté, mais il a expliqué, il a interprété, tout comme l'Église d'ailleurs, elle interprète, elle explicite tel ou tel passage de l'Écriture sainte. Celui qui croit ne croira pas, donc c'est négatif, donc c'est le refus coupable, on va voir aujourd'hui. Celui qui ne croira pas sera condamné. Pour obtenir le salut, si on n'est pas membre effectif et visible de l'Église, l'appartenance d'intention, donc, si je vous demande, ayez une intention. Bon, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le vérifier. Donc c'est invisible. Donc l'appartenance d'intention est forcément invisible. Et Dieu seul peut le savoir. Dieu est partout, Dieu voit tout. Donc Dieu sait si j'appartiens à l'Église en intention ou pas. Donc l'appartenance d'intention est nécessaire d'une nécessité stricte de moyens. C'est-à-dire qu'il n'admet aucune exception. Voilà, donc c'est la nécessité, par exemple, de se nourrir pour se garder en vie. Le deuxième énoncé, donc celui qui ne croira pas sera condamné, vise d'abord ceux qui, ayant manifesté leur intention d'appartenir à l'Église, meurent avant la réalisation effective. Donc, oui. Oui, justement, on arrive.
Les autres qui connaissent pas tout, mais les hommes ne peuvent pas avoir une intention.
Oui, tout à fait. Non, mais justement, est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir une intention? Voilà ce qu'on va voir maintenant. Parce qu'on a vu, c'est une très bonne intervention, on a vu tout à l'heure de l'appartenance physique, in re, de fait, à l'Église, par la foi, par l'adhérence au culte. Et gouvernement. C'est visible, tout le monde peut le constater.
Parce que sinon, ils sont en fait, tout le monde.
En enfer, c'est pas fait. Exactement. Oui, et c'est épouvantable, justement. Mais on ne va pas enseigner cela, on va enseigner que justement, il y a une appartenance in voto, des désirs, puis je l'aborde maintenant. Bon, donc, le deuxième annoncé, celui qui ne croira pas sera condamné, justement, comporte ces deux catégories de personnes, ni réfractaire conscient, donc qui n'appartient pas à l'Église par un acte coupable, ni ceux qui sont membres effectifs ou visibles de l'Église, mais une troisième groupe qui peut être divisé encore en deux.
Donc, ceux ayant manifesté leur intention, donc une intention positive, ils savent qu'il y a une église et ils ont l'intention d'appartenir. Donc, je veux me faire catholique, je vais voir le curé, je vais lui demander de me baptiser. Donc, je marche à l'église, puis je saute sur un. Je trébuche sur un pot de banane, puis je tracasse ma crâne, puis c'est fini. Où vais-je? Bon, on va voir. Donc, ils meurent sans, avant la réalisation effective de leur désir. Les catéchumènes meurent avant le baptême. Donc, par exemple, si vous regardez le mystère, le martyr de Bergeron, c'est plein d'exemples de Saint Daniel, de Saint Cécile, les saints qui étaient les catéchumènes qui sont morts sans pouvoir se baptiser, mais qui étaient morts dans leur sang. Donc, ils appartiennent à ce groupe qui ont manifesté leur intention d'appartenir à l'Église, visiblement, mais ils n'ont pas pu le réaliser sans leur faute. Et donc, ils meurent en dehors de l'Église visible. Mais est-ce qu'ils ne sont pas attachés d'une façon ou non? Oui. Donc, ils appartenaient par un vœu explicite, donc un désir explicite à l'Église. Et selon l'enseignement commun de l'Église, les fruits du baptême, donc la grâce sanctifiante, leur est donné sans le sacrement. Donc, c'est tout comme on avait les pommes sans avoir un pommier dans son jardin. Donc, Dieu fait qu'ils ont des pommes, ils ont le fruit sans avoir des pommiers. Donc, c'est comme s'il y a un pomme qui tombait du ciel, puis on croque. Voilà, sans le pommier. Tandis que les catholiques, chacun a un pommier dans son jardin. Il y a un arbre qui produit des fruits. Mais Dieu n'est pas tenu. Il n'est pas tenu à que ce soit seulement des pommiers qui produisent des pommes. Le bon Dieu peut le créer, ou il peut le donner, il peut le transporter, tout comme il a transporté Habakkuk pour voir Daniel avec son pique-nique, par exemple. Le bon Dieu peut utiliser les moyens dont il veut. Ils sont sauvés selon l'enseignement de l'Église, donc cette catégorie de personnes. Saint Ambroise expose cette vérité à l'occasion de la mort de l'empereur Valentinien, le catéchumène mort en 392. Donc, depuis Constantin, disons l'édit de Milan en 313, il y avait une longue ligne d'empereurs qui ne se faisaient pas baptiser. Parce que cette époque-là, on se disait, on se confessait moins, et puis on était un peu gêné devant le baptême, ce qui est une très grande chose, c'est vrai. Mais c'est un peu comme le jansénisme au 16e siècle, on n'osait plus approcher le Saint-Sacrement parce qu'on était pourri. Donc, on ne pouvait pas communier. De même, les empereurs se croyaient pourris et le sacrement du baptême était tellement grand qu'on ne pouvait pas imaginer se faire baptiser avant qu'on soit sur le lit de mort. Et donc, c'était la coutume mauvaise, d'ailleurs, condamnée par l'Église, d'attendre jusqu'au dernier instant pour se faire baptiser, pour être sûr d'avoir tous ses péchés effacés, qu'il allait directement au ciel. Donc, Saint Ambroise, qui au 5e siècle, qui était justement le tuteur de Saint-Augustin, au 5e siècle, excusez-moi, lui, il faisait un serment où pour la première fois, il disait que non, Valentinien, il est mort catéchumène, mais il n'est pas damné. Il pourrait aller au ciel aussi, parce qu'il avait le vœu explicite, puis il est mort juste avant, disant, de pouvoir lui administrer le sacrement. Donc, il dit qu'il a reçu les fruits du sacrement, mais il n'avait pas le sacrement lui-même. Ceci est l'appartenance, selon l'enseignement de l'Église, in voto explicite à l'Église, c'est-à-dire par un vœu ou désir explicite et public, reconnu. Ensuite, celui qui ne croira pas sera damné. Le deuxième énoncé concerne également ceux qui ont un désir implicite d'appartenir à la véritable Église. Donc, c'est notre Chinois, c'est notre Africain qui n'a jamais eu la lumière de l'Évangile. Aller dans le monde entier, prêcher l'Évangile, baptiser. Et puis, personne n'est jamais allé chez lui pour lui dire « Voilà la foi, voilà ce qu'enseigne notre Seigneur Jésus-Christ. Fides ex audito, la foi vient de l'entendement. » Personne ne lui a dit. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une personne comme ça? Bien. Donc, elle s'applique, par exemple, à tous les justes non-juifs de l'Ancien Testament, avant le venu du Christ. Donc, c'est Job, par exemple. Job, sur son tas de filets, c'était pas un juif, mais c'était un païen. Donc, comment est-ce que ça se fait qu'il se sauvait? Parce qu'il n'était pas circoncis. Parce qu'il n'est pas nécessaire de se sortir conscrire à cette époque-là, parce que ce n'était pas un sacrement. Vous n'avez pas besoin d'être de la race des Juifs, c'était impossible pour être sauvé. Ce n'est pas tout le monde qui était juif. Donc, est-ce que ça veut dire que tout le monde qui n'était pas juif était condamné en enfer? Pas du tout. C'est qu'ils pouvaient se sauver justement par une appartenance, un désir implicite d'appartenir à la véritable Église du Christ, donc à la synagogue ancienne. Bon, voilà une catégorie avant le venu du Christ. C'est vraiment plus facile à voir, mais après le venu du Christ. Voilà la question. Pour obtenir le salut, il est requis, selon l'enseignement de l'Église catholique romaine, d'avoir au moins le désir d'appartenir à l'Église du Christ. Donc c'est le minimum, c'est le béaba. Le désir peut être explicite, donc c'est le catéchumène, ou implicite. Quelqu'un est victime d'une ignorance invincible. Donc c'est notre Chinois, c'est notre Africain, qui ne sait pas et que ce n'est pas sa faute. Est-ce qu'il peut se sauver? Dieu accepte ce désir implicite car il est inclus dans la bonne disposition de l'âme qui cherche la vérité et qui veut se conformer à la volonté de Dieu. Mais ce vœu implicite ne peut être uniquement naturel. Ce n'est pas un désir naturel. Parce que le but recherché n'est pas la vie naturelle, mais la vie surnaturelle. Et donc, il faut justement un moyen surnaturel. Parce que l'homme ne peut pas se hisser par ses lacets pour aller au ciel. Il faut un aide surnaturel. Parce que le but recherché est purement surnaturel. Donc, ça doit venir de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Ça vient de l'extérieur. Il faut que ce désir qui ordonne quelqu'un à son insu, parce qu'il s'agit bien d'une ordonnance à l'Église, à l'insu de la personne. Donc, ce désir qui ordonne quelqu'un à son insu à l'Église doit être informé, animé, par la charité parfaite. Donc, la charité parfaite, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire la grâce de Dieu, ça veut dire une participation à la vie même de Dieu. La grâce est une créature, mais c'est une vraie participation à la vie de Dieu. Donc il faut être uni à Dieu. Celui qui m'aime, donc celui qui a la charité parfaite, qui garde mes commandements, qui observe mes lois. Et le vœu implicite, il faut que ce désir qui ordonne quelqu'un à son insu à l'Église soit informé par la charité parfaite. Et le vœu implicite ne peut avoir d'effet que s'il en a la foi surnaturelle. C'est évident. Sans la foi, il est impossible à plaire Dieu. Sine fides, impossibili est placere Deo. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est une vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi le calvinisme ou justement le rigorisme sur ces questions-là est hérétique. Parce que Dieu ne veut pas la damnation des hommes, il veut leur salut. Il leur donne personne, il prédestine personne en enfer, parce que Dieu ne peut pas prédestiner les âmes en enfer. C'est impossible, c'est le mal. Seulement ordonner quelqu'un au bien. Le mal peut être occasion du bien, mais pas la cause du bien. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, 1 Timothée 2,4, mais sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc comment jongler les deux? Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Est-ce que cela veut dire que tout le monde serait sauvé? Sans la foi, il est impossible à plaire à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ceux qui, sans leur faute, ne croient pas? C'est-à-dire explicitement. Ben là, il faut comprendre ce que c'est la vertu infuse, la vertu théologique infuse de la foi. Qu'un enfant reçoit au baptême, par exemple. Bien. Donc, j'ai dit que pour être sauvé par le vœu implicite, donc celui qui ne croira pas et sera, celui qui ne croira pas sera damné. Voilà le deuxième énoncé. Il faut donc, pour être sauvé, le vœu implicite, donc le désir implicite pour appartenir à la vraie Église du Christ, ensuite la charité parfaite et la foi surnaturelle. Ces trois choses. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc ce vœu implicite d'appartenir à l'Église, qui est le minimum requis pour le salut, doit être surnaturel, tout comme la foi implicite à laquelle il correspond. Donc le désir implicite est secret, donc on parlait d'un Chinois, un Africain tout à l'heure, Le désir implicite et secret d'appartenir à l'Église est un don de Dieu qui présuppose la foi surnaturelle en un Dieu rémunérateur. Donc on ne parle pas de Sainte-Trinité, par exemple, parce que là, il faut la révélation positive telle que l'Église nous l'a transmise. Si l'Église ne nous a pas dit que Dieu est trinité, on n'aurait aucune connaissance. Donc, il faut que donc, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'Église catholique ni du christianisme ne peut pas savoir que Dieu est trinité, mais il peut savoir par la seule raison naturelle, par la seule lumière de la raison naturelle, qu'il y a un Dieu rémunérateur, c'est-à-dire qui récompense les bons et qui punit les méchants. Donc il faut que cette personne ait la foi surnaturelle en un Dieu rémunérateur qui récompense les bons et punit les méchants, donc le ciel et l'enfer, et l'observance intégrale des 10 commandements, connus par la seule lumière de la raison naturelle. Donc ceci présuppose la grâce sanctifiante. Donc il faut qu'il soit en état de grâce, c'est-à-dire qu'il ait le don de la vie de Dieu, qu'on reçoit normalement au baptême. Conclusion. Le dogme de l'Église, pas de salut, est comme l'arête de la vérité entre deux précipices opposés à l'erreur. Donc d'une part, l'indifférentisme, ou faux écuménisme, parce que le pape Pie XI a condamné un faux écuménisme, ou l'irénicisme, donc dans son encyclique Redemptor Hominis, en 1935. Toutes les religions se valent, c'est une erreur. Il y a des éléments du salut dans toutes les religions. C'est une erreur condamnée par le pape Pie XI dans son encyclique. Et d'autre part, le rigorisme, sans damner tous ceux qui sont unis à l'Église que par un désir inconscient. Donc ça, c'est une erreur. Donc si quelqu'un, de façon inconsciente, est séparé de l'Église, mais désire faire la volonté de Dieu, il y a Baius, par exemple Michel Debré, Fini, Kennel, et d'autres hérétiques, jansénistes surtout, qui disaient que tous ceux qui n'avaient pas ce désir explicite, comme le catéchumène, étaient damnés. Donc il n'y avait pas le baptême de désir, seulement un baptême de sang et d'eau. C'est une erreur. Pour conclure, d'une part, sans l'appartenance effective, donc visible, à l'Église catholique, nul ne peut être assuré de son salut, sans l'appartenance visible à l'Église. D'autre part, donc c'est le principe de droit qui admet des exceptions. D'autre part, la grâce divine peut agir de façon extraordinaire en dehors des limites visibles de l'Église, mais toujours en dépendance de l'Église. Par exemple, on dit que les orthodoxes, qui sont des schismatiques, donc séparés de l'Église du Christ, que leurs confessions sont valides. Donc que les prêtres qui confessent dans l'orthodoxie, malgré le fait qu'ils n'ont pas la juridiction, ils confessent validement. Pourquoi? Parce que les papes ont donné, donc, au temps du schisme, ou plutôt, je crois, 200 ans après, ils ont donné la juridiction de façon in petto, donc secrètement, aux évêques orthodoxes de confesser validement. Pourquoi? Parce que pour éviter le grand mal de tous ces gens-là aller à la confesse et ne pas avoir le vrai sacrement, c'est-à-dire un sacrement valide. Donc les papes ont voulu être miséricordieux. Mais d'où vient cette juridiction pour confesser? Ça ne vient pas de l'orthodoxie, ça vient du pape. Ça vient de l'Église catholique romaine et pas d'ailleurs. Une petite anecdote en passant. Bien, donc, pour conclure, sans l'appartenance effective à l'Église catholique, nul ne peut être assuré de son salut. D'autre part, la grâce divine peut agir de façon extraordinaire en dehors des limites visibles de l'Église, mais toujours en dépendance de l'Église. C'est l'appartenance du désir explicite, donc c'est le catéchumène, ou implicite, c'est-à-dire du païen, qui, pour être efficace, demande la foi surnaturelle et la charité. Y a-t-il le salut en dehors de l'Église catholique? Non, tous doivent faire un retour à la foi et à l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Si on se sauve, c'est parce qu'on est unis d'une façon ou d'une autre à l'Église catholique, l'Église du Christ. Donc, pour quel genre d'écuménisme suis-je? Et donc, quand je parle pour moi-même, je parle en pouvant citant des encycliques et des conciles. Père, qu'ils soient tous un. Donc, comment est-ce que l'Église a toujours interprété cela? Il disait que l'unité la qualité limitative de l'Église soit augmentée, c'est-à-dire que les catholiques entre eux, qu'ils augmentent en foi, espérance, en charité, et donc en unité. Donc c'est une qualitative, c'est pas quantitative. Ensuite, il y a l'autre unité, c'est augmenter l'unité par un retour à la véritable Église du Christ de ceux qui sont séparés, soit par leur faute, soit qu'ils ne sont pas par leur faute, de la véritable Église du Christ. Père, qu'ils soient tous un, c'est ça. Parce que nous prions dans le credo que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Et si nous disons que l'Église n'est pas une, mais qu'elle est divisée, et que cette unité est distribuée parmi plusieurs religions, on dit des mensonges. Parce que quand nous disons l'Église, en parlant de quelle Église? De notre Église, régie par le pape. C'est ça, le credo que nous récitons chaque dimanche, chaque jour de fête, par exemple, cette semaine-ci, on récite le credo, c'est l'unité que l'Église a aujourd'hui. Et les portes de l'enfer ne provoqueront pas contre mon Église. Cette unité que le Christ a donnée à l'Église peut être trouvée à chaque époque, intacte, intégrale, jusqu'à la fin des temps. Les portes de l'enfer, voilà. Donc l'unité parmi les catholiques doit se renforcer et tous ceux qui sont en dehors de l'Église doivent être ramenés. Donc voilà le long missionnaire. Si vous regardez la vie de Saint François Xavier, par exemple, pour prendre qu'un exemple, il parcourait le monde. Il y avait 5 000 à 600 000 personnes qui étaient gagnées à l'Église du Christ. Qu'est-ce qu'il faisait, c'est cet homme, pendant 12 ans, parcourait l'Orient en convertissant les païens. C'est ça. C'est qu'en dehors de l'Église, pas de salut. Et donc, il faut ramener le plus possible de gens à la voie ordinaire du salut. Parce qu'en dehors de la voie ordinaire du salut, il peut y avoir des gens qui se sauvent, comme on vient de le voir. Mais pensez à vous-même. Vous allez à la confession toutes les semaines, toutes les deux semaines, j'en sais rien. Vous allez à la messe, vous fréquentez les sacrements. Et comment c'est difficile à garder le temps de grâce, c'est-à-dire de faire aucune faute mortelle contre les 10 commandements. Pensez, nous avons toutes ces richesses de l'Église catholique, comment c'est difficile de garder la foi et la morale. Mais pensez à quelqu'un qui est en dehors de l'Église, qui a les 10 commandements inscrits dans son cœur, dans leur grande ligne, comme enseigne l'Église, et puis qui n'a pas le secours de la grâce. C'est extraordinaire, c'est comme si on pouvait se rendre à Montréal sur l'autoroute la 40, c'est facile. Mais quelqu'un a peut-être un jeep, puis il va passer à travers des boisés, des forêts, des fleuves, des rivières, peut-être il va arriver. Mais on ne sait rien. Vous voyez, donc il y a la voie ordinaire du salut, c'est l'Église catholique romaine. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Voilà la voie ordinaire, la voie royale pour aller au ciel. Ensuite, celui qui ne croira pas sera damné. Donc c'est la voie extraordinaire qu'il croira si Dieu lui donne la foi surnaturelle et le don justement d'observer ses commandements et ses commandements. Merci bien.